Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans le réveil culturel, on va évoquer la figure de Marlon Brando. À l'occasion de la sortie en DVD et en Blu-ray de la version restaurée de La Vengeance aux deux visages, le seul film que la star du cinéma ait réalisé au début des années 60, mais aussi à l'occasion de la sortie d'un livre consacré à ce monstre du cinéma hollywoodien, Marlon Brando, Les stars durent 10 ans, c'est aux éditions Capricci. Ce matin, nous sommes avec l'auteur du livre, Arthur Serre, journaliste à Society et à ce film, et également présent avec nous, Olivier Delcroix du Figaroscope. Lui aussi, il a une histoire particulière avec ce film. Ce réveil culturel a été préparé avec la complicité de Corinne Amar et Maël Ray, Vincent Abouchard à la réalisation et Mathieu Tourin à la prise de son.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Hello, Ben.
Hello, kid. I knew you'd be coming sooner or later.
Can't stay angry for 5 years. Can it? Everything I told you about last night was lies. I make my living robbing banks.
You only shame yourself.
Get up, you scum-sucking pig.
You think that to kill him would make you a man? Won't you try to forget this?
Get it.
Voilà, sur une musique remixée, quelques extraits du film La Vengeance aux deux visages, le seul film de Brando en tant que réalisateur. C'est un western de et avec Marlon Brando, sorti aux États-Unis en 1961. Alors, bien sûr, ce film a connu plein de péripéties, on va en parler. Le budget initial a été multiplié par 3, le montage final de presque 5 heures a été charcuté, seulement que l'on puisse dire, par la Paramount. Une histoire que vous connaissez bien. Arthur Serre, bonjour.
Bonjour.
Vous qui venez de publier chez Capricci un livre sur Marlon Brando dans lequel vous affirmez que ce film, donc La Vengeance aux deux visages, One Eye Jacks pour reprendre le titre original, vous dites c'est un western qui aurait pu être un grand film, en précisant que ce film en dit autant sur Brando que Citizen Kane en disait sur Orson Welles.
Ouais, c'est un film fondamental pour comprendre la figure de Marlon Brando, puisque avec ce film il va tenter de se hisser à la hauteur de Orson Welles et de Chaplin et de devenir un auteur, en fait, de sortir de sa condition d'acteur et de réaliser sa grande œuvre. Et les péripéties du tournage vont virer doucement à la catastrophe, et en fait il ne va plus jamais réaliser un film, plus aucun studio ne lui fera confiance et ne lui donnera de budget pour...
Et est-ce qu'il acceptera le film tel que la Paramount l'a monté et sorti?
À la fin du tournage, il laissera la réalisation à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il se désolidarisera complètement du travail, donc difficile de savoir s'il a apprécié la version finale. Mais
il vit bien ce film, d'après vous? Parce que moi je l'ai revu, effectivement, on a l'impression que c'est le premier western spaghetti avant l'heure.
Moi je trouve qu'il vit très bien, puisque en plus, quand on voit les westerns qui sont sortis dans les années 70, de Arthur Penn notamment, on sent que La Vengeance aux deux visages a inauguré une espèce de tendance psychanalytique du western qu'on retrouve
beaucoup plus pour le côté négligé de Marlon Brando que je pensais au western spaghetti.
Oui, tout à fait, on le sent aussi, mais moi c'est vraiment la dimension freudienne et oedipienne que j'ai l'impression de retrouver dans les films d'Arthur Penn derrière, et également le Brando dans son intensité masochiste qu'on retrouve dans La Poursuite impitoyable d'Arthur Penn, et effectivement son côté négligé, et puis cette espèce de désinvolture et de cabotinage qu'on retrouve aussi dans La Poursuite impitoyable et dans un autre film d'Arthur Penn, Missouri Breaks, dans lequel il est complètement extravagant, excentrique et très drôle.
Alors, La Vengeance aux deux visages, qui sort en DVD, a bien sûr quelques bonus, et dans un des bonus, c'est Martin Scorsese qui parle de ce film, de l'histoire de ce film. Ça fait partie, bien sûr, d'un des films favoris de Martin Scorsese.
This film is based on a novel by Charles Nader, apparently a Mark Twain scholar. Really, it's a familiar story. It's based on the story of Billy the Kid. Frank P. Rosenberg, bought the project, the book, and interestingly enough, hired Sam Peckinpah to write the screenplay. And once they felt they had a good script, they gave it to Brando, who wanted to do the picture.
Alors voilà, Scorsese, il explique un peu toutes les péripéties, comment ce film, adapté d'un livre, Arthur Serre, hein?
Oui, tout à fait, un livre de Charles Snyder, qui est une espèce d'énième déclinaison autour du mythe de Billy the Kid, dans laquelle Brando va essayer d'insuffler quelque chose du conte de Monte Cristo à travers la thématique de la vengeance.
Alors il commence l'écriture avec Sam Peckinpah, mais Sam Peckinpah va se barrer très vite. On pense à Stanley Kubrick, mais Stanley Kubrick, à la veille, à quelques jours du tournage, hein, c'est ce que vient de dire Martin Scorsese, il s'en va, il revient plus.
C'est tout à fait, il y a une soirée notamment que Brando raconte au cours de laquelle Kubrick et lui jouent aux échecs, aux fléchettes et au poker, et puis Kubrick à quelques jours du tournage va quand même demander quel est le sujet du film, ce à quoi Brando va lui répondre je vais te dire ce que c'est le sujet du film, c'est le film parle des 300 000 dollars que je dois à Karl Malden. Donc Kubrick va répondre je crois que c'est pas fait pour moi, et il va quitter le projet.
Qu'est-ce qu'il voulait montrer à travers ce film Marlon Brando, pourquoi il choisit cette histoire ?
D'abord à travers le projet du film de mener à bien cette production et cette réalisation, il veut prouver qu'il n'est pas seulement un interprète, qu'il est autre chose, qu'il est un auteur, qu'il est un Orson Welles, qu'il est un Charlie Chaplin. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que c'est un western oedipien dans lequel il va régler ses comptes avec son père, avec les noms des deux personnages, donc Dad Longworth.
Il faut peut-être résumer l'histoire, hein, parce que Marlon Brando joue le rôle d'un braqueur de banque, Rio, qui a été trahi par son complice. Donc quand il sort de prison, quand il s'évade d'ailleurs, il se met à la recherche de celui qui l'a trahi et il le retrouve reconverti en shérif. Et d'ailleurs, il s'appelle Dad. Ce qui n'est pas innocent, je suppose.
Dad, et qui lui surnomme le personnage de Brando Kid. Donc on voit la subtilité avec laquelle Brando amène la thématique du complexe oedipien.
Mais pourquoi Arthur Serre, dans votre livre Marlon Brando, les stars durent 10 ans, qui vient de sortir chez Capricci dans la nouvelle collection Stories, pourquoi vous dites que ce film, ce western, aurait pu être un grand film ?
C'est-à-dire que il est raté. C'est pas un grand film d'auteur. C'est-à-dire que Brando a été pris un peu malgré lui dans des péripéties de tournage qui sont propres à beaucoup de films, mais qui, dans le cas de Marlon Brando, ont viré au désastre. C'est-à-dire que il écrit des bouts de texte le matin, les dialogues, il les écrit le matin, il les tend aux acteurs. Il tourne, mais il tourne plus pour gagner du temps que par perfectionnisme, en fait. Et le budget triple. Donc c'est le cas de beaucoup de films, sauf que dans le cas de Brando, il y a une espèce de perte de contrôle qui est pas du tout, qu'il n'arrivera pas à rattraper et à récupérer derrière.
Olivier Delcroix, on vous a entendu rire, comme à chaque fois, quand vous venez dans cette émission, et c'est un plaisir de vous avoir. Vous aussi, vous avez une histoire particulière avec ce film.
Mais en fait, ce qui est amusant,
La Vengeance aux deux visages, bien sûr.
La Vengeance aux deux visages est un des premiers films que j'ai programmé en tant qu'étudiant à Ciné-Sorbonne. Et je me souviens encore de ce film parce qu'il m'a énormément marqué. Moi, j'aimais beaucoup le côté western à la mer. Ça, c'est quelque chose d'assez magnifique. Et puis, ce que j'aime aussi dans le côté, vous en parliez tout à l'heure, western spaghetti, enfin en tout cas proto-western spaghetti, c'est qu'en fait, ce brave Marlon Brando, dans la scène de braquage du début, il est assis sur le côté, sur la banque, sur le coffre, et il mange une banane. Et ça, c'est typiquement spaghetti. On désacralise complètement le braquage. Le héros mange une banane. Vous avez vu déjà, lors d'un braquage, un braqueur manger une banane? Non, c'est pas possible. Ben lui, si, il le fait. Il est très décontracté. En plus, il se permet une petite scène de séduction. Et ça, c'est très spaghetti, c'est très Sergio Leone. Alors oui, il y a effectivement un petit peu de nouvel Hollywood dans le film La Vengeance aux deux visages. Mais ce qu'il y a également, c'est toutes les imperfections que Brando insuffle dans son film. Il a effectivement doublé de volume pendant le tournage parce qu'il n'arrêtait pas de manger, parce que c'était un ogre un peu à la Wells. Et c'est ça qui était amusant. C'était que, par exemple, il restait des heures et des heures pendant que les vagues tournaient à Monterey, où se trouvait le lieu du tournage, et les chefs op disaient, dis donc, qu'est-ce qu'on dit à Brando là, quand est-ce qu'on tourne, quand est-ce qu'on dit moteur? Et finalement, on déléguait une personne qui allait voir Brando, qui était en train d'admirer comme ça la mer, et mais qu'est-ce qu'on attend pour tourner? Et Brando se retournait et disait, la bonne vague. Et c'est vrai que c'est la bonne vague et c'est la nouvelle vague. Et c'est cette nouvelle vague que Brando insuffle aussi dans ce film très très bancal. François Truffaut appelait ça la théorie du grand film malade. Et Dieu sait si François Truffaut, dans les Hitchbook, il envoie des grands films malades d'Hitchcock.
Mais vous-même, Olivier Delcroix, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film, dans son propos, en dehors de ce que vous venez de dire? Est-ce que l'histoire du film, le côté oedipien de cette histoire, vous a interpellé, comme on disait à l'époque?
Je veux pas le cacher, je suis fils de psy, donc forcément j'ai baigné dans cette atmosphère-là. Et en regardant La Vengeance aux deux visages, One Eye Jack, j'ai été effectivement fasciné par le film. Comment Karl Malden, qui était pour moi le héros du feuilleton avec Michael Douglas, l'héros de San Francisco, pouvait se transformer en une espèce de père à la fois attiré par ce fils qu'il a envie de monter plus haut et qu'il abandonne pour lui-même se reconvertir. Et la scène la plus terrible, celle qui m'a le plus traumatisé et que je ne montrerai pas à mes enfants d'ailleurs, c'est la scène où il se fait fouetter en place publique et
jusqu'au sang.
C'est une scène d'une violence incroyable que d'ailleurs, quand j'ai revu le film en version restaurée, je vous l'avoue, je l'ai passé en vitesse accélérée. C'est un truc que je ne peux pas supporter. C'est une très grande scène, mais elle me met extrêmement mal à l'aise. Et en même temps, il y a toute la beauté de Brando, le visage de Brando filmé plein écran, en panoramique. Ce type est d'une beauté incroyable. Il a quelque chose de totalement sulfureux et en même temps totalement angélique. C'est très très étonnant et c'est un précipité chimique du Brando de la meilleure période. Alors oui, le film
ou peut-être la fin de sa bonne période, vous le dites, Arthur Serre, dans votre livre.
Ouais, tout à fait, c'est un film qui préfigure ce que vont être les années 60 pour Brando, c'est-à-dire qu'il va tourner Les Révoltés du Bounty, où là l'ouragan Brando va coûter 6 millions de dollars à la production et ça va amorcer aussi la série de navets dans lesquels il va tourner dans les années 60, La Comtesse de Hong Kong de Charlie Chaplin, Candy de Christian Marquand,
Sayonara
qui est avant La Vengeance du Visage, mais voilà, oui, ça augure aussi l'espèce de revers de destin tragique qui attend Brando dans les années 60.
Vous, dans votre livre, Arthur Serre, vous dites que celui qui va complètement acter la fin de Marlon Brando, parce que on va y revenir, les stars durent 10 ans, c'est une citation de Marlon Brando lui-même.
Oui, tout à fait.
Mais vous dites que c'est Truman Capote avec un article assassin, parce qu'il va aller voir Marlon Brando, qui va dire c'est fini Marlon Brando. Si je dois résumer, oui, c'est à peu près ça, c'est comme si c'était fini pour le Marlon Brando d'Un tramway nommé Désir, le Marlon Brando bête, sensuel, sex appeal, pour devenir quelque chose, un être encombrant dans l'industrie du film.
Oui, tout à fait. Mais en fait, le moment Brando, il est très court dans l'histoire du cinéma. Il dure 5 films, du début des années 50 jusqu'à 54 avec Sur les quais quand il a son Oscar. Et après, Brando, ouais, va connaître une espèce de revers de destin digne d'un héros shakespearien, quoi. Dans les années 60, il est déjà ringard. Les studios, les producteurs l'emploient encore parce que son nom est encore une garantie de succès pour les films au box-office. Mais il va devenir encombrant pour tout le monde. Il va devenir cette espèce de star capricieuse qui va saouler tout le monde avec ses délires de souverain complètement
mégalo.
C'est
exactement ce que vous dites, ce que vous écrivez dans votre livre. Le fauve sensuel se transforme en star capricieuse avec cet article de Truman Capote qu'il a rencontré, avec qui il a discuté plus de 6 heures alors qu'il devait le voir juste 1 heure. Et il ressort avec un article qui est très bon d'ailleurs, cet article, hein, mais qui l'assassine définitivement.
Ouais, tout à fait. C'est la première fois en fait dans l'histoire de Brando que le mythe est effrité, quoi. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'est la bête sensuelle, c'est le visage d'un tramway nommé Désir dans l'esprit de tout le monde. Et avec cet article qui est une vivisection, en fait, c'est vraiment Brando va se livrer comme jamais. C'est d'ailleurs les circonstances de la rencontre, c'est assez curieuse, on ne sait pas trop si...
Si, on devine que c'est le nouveau journalisme, et on devine que Truman Capote ne va pas rencontrer Marlon Brando pour dresser un portrait élogieux, ça on le sait, on le sent. Lui, apparemment, il n'est pas au courant.
Apparemment, il n'est pas au courant. Ceci dit, le réalisateur de Sayonara le prévient quand même avant, en lui disant que Capote est la plume la plus incisive de sa génération. Il va faire qu'une bouchée de lui. Ce à quoi Brando répond « Faites-le monter ».
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Thank you. thème du film, le thème principal du film, La Vengeance aux deux visages, One-Eyed Jacks, réalisé par Marlon Brando, sorti en 1961. On l'a dit, le seul film réalisé par Marlon Brando. Et nous sommes avec Arthur Serre, qui vient de sortir chez Capricci un livre consacré à Marlon Brando, Les stars durent 10 ans, et également avec Olivier Delcroix du Figaroscope. Alors, Les stars durent 10 ans, c'est quoi? C'est une citation de Marlon Brando?
Oui, tout à fait. C'est une citation de Marlon Brando qui dit ça à Lawrence Grobel, qui est un journaliste envoyé par Playboy à la fin des années 70 à Tahiti pour rencontrer Brando. Et pendant cette rencontre, Brando va être travaillé par cette espèce d'interrogation. Combien de temps dure un acteur, en fait? C'est-à-dire qu'à ce moment-là de sa carrière, il est complètement reclus au bout du monde sur une île qu'il a achetée. C'est-à-dire, en l'achetant, il s'est aussi condamné lui-même à rester lié à vie à cette industrie qu'il méprise avec beaucoup de cynisme. Donc voilà, ouais, Brando se demande sur cette île du bout du monde combien de temps dure un acteur. C'est-à-dire, il dit aussi, on parle plus de Humphrey Bogart, on parle plus de Gable, on parle plus de John Wayne. Combien de temps un mythe, combien de temps un acteur peut-il durer?
Et puis ensuite, surtout, il dit aux journalistes, je ne tourne des films que pour avoir de l'argent. Ouais. Oui, la passion est passée.
Oui, il a toujours revendiqué cette espèce de vénalité, même si au cours de cette interview avec Lawrence Grobel, il va aussi s'affirmer comme le meilleur théoricien de son art. Il va parler des films et de cinéma avec un peu de passion parfois, même s'il sera, il aura très peu envie, il n'a pas envie d'en parler au premier abord. Il préfère parler des Indiens et de politique. Il étale son cynisme au journaliste, mais en même temps, on comprend que ça le passionne. Il adore parler de Stella Adler, du jeu d'acteur, de ce qui fait les personnages. Et dans la méthode Brando, il y a aussi le fait de ne parler des rôles et des personnages pendant des heures et des heures. Donc, ce qui veut dire que le bonhomme n'est pas complètement désintéressé de ce qu'il fait.
Dans votre livre, Arthur Serre, vous résumez l'histoire de Brando en 15 histoires. C'est le principe de cette collection Stories. Donc, il y a bien sûr un tramway nommé Désir. Plus tard, effectivement, il va y avoir Sur les quais. Beaucoup plus tard, vous mettez des films très importants comme Le Parrain, où personne ne veut de Marlon Brando. Coppola se bat pour l'avoir et il a eu raison, alors qu'il était blacklisté. Hein. Aucun producteur ne voulait de lui. Et puis, bien sûr, vous en parlez pour Apocalypse Now. Et La Vengeance aux deux visages fait partie de ces films, de ces moments clés de la vie de Marlon Brando. Pourquoi?
Parce que c'est ce moment où il essaie de sortir de sa condition d'interprète et de s'affirmer comme plus que ça, comme un Orson Welles. Il veut être un auteur, et c'est ce qu'on va sentir aussi sur tout le reste de sa carrière. C'est-à-dire que pendant les révoltés du Bounty, il va demander à reprendre le script sans arrêt pour inclure sa dimension, son identité dans le scénario. Il va imposer des choix de caméra au réalisateur, à tel point que Carl Reed, le premier réalisateur des révoltés, va quitter le tournage, insupporté par Brando, et va être remplacé par Lewis Milestone. Donc il y aura sans arrêt dans Brando cette espèce de revanche sur son identité d'acteur.
Et puis votre livre commence par Marlon Brando, Les derniers jours, et là on découvre un Marlon Brando qu'on ne connaissait pas, un geek qui est vraiment intéressé par tout ce qui est ce trame dans son ordinateur. Il s'amuse avec Photoshop. C'est le Brando qu'on ne connaissait pas, en fait. Hein.
Ouais, tout à fait, c'est ses amis qui racontent ça, notamment Scott Billups, qui bossait sur des effets spéciaux à Los Angeles dans les années 90 et qui est le premier à avoir numérisé le visage de Marlon Brando. C'est-à-dire que Marlon Brando est le premier acteur à... numérique, voilà, tout ouais. À fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on admet un peu plus dans les films, mais Brando était, il y avait une dimension visionnaire quand même pour s'intéresser à cette technologie à ce point-là. Il y avait aussi une dimension échappée à sa mortalité et qui rattrape cette question qu'il avait formulée à Lawrence Grobel, combien de temps un acteur dure-t-il?
Vous avez quel âge, Arthur Serre?
25 ans.
Est-ce que Marlon Brando continue à intéresser des jeunes?
C'est une question intéressante autour de moi. Il y a ceux qui connaissent très bien, mais qui le connaissent par la fin. C'est-à-dire qu'on, voilà. Ouais. Moi-même, j'ai découvert Brando par Le Parrain, par Apocalypse Now, et ensuite on remonte. Mais en fait, il y a cette dimension où il est déjà un dieu, c'est-à-dire. Mais c'est aussi pour ça que les cinéastes vont le chercher.
Alors, est-ce que c'est un dieu déchu? Parce que quand même, j'ai oublié de citer une autre date importante dans votre livre. C'est bien sûr Le dernier tango à Paris. Eh oui, quand même, Olivier Delcroix. Pour les gens qui découvrent Marlon Brando avec cette histoire, c'est incroyable.
C'est Le dernier tango à Paris. En plus, ça se passe à Paris. C'est en 72. C'est Bertolucci. Et c'est effectivement un horrible traquenard tendu à Maria Schneider par un Bertolucci manipulateur. Et effectivement, effectivement, c'est un film extrêmement marquant, extrêmement, alors là, quand je disais sulfureux, Marlon Brando, pour le coup, oui. En même temps, ce que vous dites dans le bouquin est tout à fait intéressant.
Ouais, parce qu'il joue le jeu de Bertolucci, mais il est très respectueux de Maria Schneider.
Surtout,
en même temps.
Il est aussi très acteur studio, très Stella. Donc, il va pousser jusqu'au bout du bout l'idée d'être le personnage quarantenaire qui va finalement sodomiser cette jeune fille dans une histoire d'amour absolument à la fois torride et morbide.
L'acte n'aura pas lieu, hein, c'est
rappelé
dans
celui. Bien sûr, l'acte est simulé, voilà.
Oui, non, mais c'est pas rien
et
de le rappeler.
Et la mode de beurre, enfin voilà, tout ça, tout ce que Coluche, d'ailleurs ensuite dans les années 80, va réutiliser pour un sketch. Et ce qui est le plus délirant dans cette histoire, c'est que Brando devient maintenant une figure totalement cramée, brûlée, les ailes fondues comme un Icare qui a voulu se projeter vers le ciel, alors qu'en fait, toute sa carrière est formidable. On dit, et Truman dit qu'il est fini, là, dans les années 60, mais moi je trouve que pas du tout. Je trouve que
le
dernier tango,
film après,
c'est 72,
le
Apocalypse Now, Le Parrain, c'est des films qui vous ont tellement marqué, qui nous ont marqué notre imaginaire, qui ont marqué le cinéma hollywoodien. Finalement, il n'est pas du tout fini. Alors après, oui, on peut redécouvrir dans les bases du cinéma de Brando une passion, le talent, mais quand même, jusqu'à la fin, il aura été un dieu. Voilà, un dieu.
Marlon Brando, Les stars durent 10 ans, c'est chez Capricci. Merci Arthur Serre d'être passé ce matin, nous en parler. Olivier Delcroix, alors, mis à part ce coup de cœur partagé pour ce film de Marlon Brando, La vengeance aux deux visages, qui ressort en DVD avec quelques suppléments très intéressants, dont justement l'analyse de Martin Scorsese. Vous nous conseillez une autre grande figure des années 60. Ben oui, puisque c'est la même année. On va vous faire écouter un document de 1961 concernant le petit Nicolas, parce que c'est les 60 ans du petit Nicolas. Et pour vous, il faut surtout pas rater cette exposition pour cet anniversaire.
Ben effectivement. Le petit Nicolas a 60 ans, c'est extraordinaire. Sampé et Goscinny, c'est un attelage formidable, magique. C'est un personnage qui a hanté et qui hante toujours les cours et les récré surtout, parce que le petit Nicolas, quand même, chouette. C'est une bande de copains et c'est un petit personnage qui arrive à sa 60e année sans avoir vieilli le moins du monde. Je m'en aperçois avec mes gamins. Je m'en aperçois en relisant moi-même le soir le petit Nicolas et je dis mais c'est incroyable, ce génie qu'ont ces deux types qui ont réussi, Jean-Jacques Sempé en y mettant l'amour du foot par exemple, que n'avait absolument pas René Goscinny, en dessinant avec une justesse incroyable ces personnages, et Goscinny lui-même en racontant les années 60, ses années d'école, ses souvenirs qui finalement n'ont pas du tout vieilli et sont baignés dans une sorte d'intemporalité incroyable.
Comment est né le petit Nicolas? Eh ben, je vais vous faire écouter une interview de 1961, décidément, c'est tout à la fois la sortie du film de Marlon Brando, et c'est aussi la première interview concernant le petit Nicolas de Goscinny à la radio française, et il nous expliquait comment était né ce personnage.
Nicolas, en fait, est une découverte de mon ami Sempé. Sempé, il y a de cela quelques années, avait créé un petit personnage, il avait fait des dessins humoristiques avec un petit personnage qu'il avait baptisé Nicolas. Par la suite, on nous avait demandé de le transformer en bande dessinée et j'ai assuré les scénarii de ces bandes dessinées et nous l'avons abandonné. Plus tard, un journal, Sud-Ouest Dimanche, nous a demandé de faire une page pour Pâques. J'ai eu l'idée alors d'utiliser ce personnage de Nicolas sous sa forme actuelle. Et nous ne pensions pas d'ailleurs qu'il allait avoir une suite, mais il a eu du succès et nous avons continué à le faire depuis 3 ans sans arrêt.
C'était en 1961, ça je l'avais dit, c'était Noël 61, 25 décembre 61, sur les ondes de France Culture. On vient d'écouter Goscinny parlant du petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition, Olivier Delcroix?
D'abord et avant tout, donc c'est une exposition qui a lieu le 29 mars à la Fondation Vuitton. C'est le jour même dit du 60e anniversaire du petit Nicolas. Je pense qu'effectivement, il y a un goûter qui va être préparé aussi avec deux 200 à 300 petits gamins qui vont jouer à la Fondation Vuitton, et là on va retrouver la chouette bande du petit Nicolas, en tout cas dans l'esprit. Et puis effectivement, ce sont les dessins de Jean-Jacques Sempé, les dessins de Sempé qui sont un véritable poème, qui sont à la fois quand ils sont aquarellés ou même lorsqu'ils sont uniquement ancrés, déjà des petits chefs-d'œuvre de précision, d'humour, de poésie. C'est toujours le très juste, et pour l'avoir rencontré, Jean-Jacques Sempé, à plusieurs reprises, plus je le vois, plus je suis attendri par ce génie du dessin, cet illustrateur qui a quand même été l'un des plus grands, et qui l'est toujours, et qui, puisqu'il a travaillé pour le New Yorker, il continue un petit peu. Et puis, à tel point d'ailleurs, que lorsqu'il s'est lancé tout seul pour faire un récit, comme Raoul Taburin, ce fameux personnage...
Déjà adapté, et le film sort bientôt.
Exactement, le 17 avril. Moi, je me suis aperçu aussi qu'il avait cette langue très gossinienne, et ses dessins à l'aquarelle, donc ça raconte l'histoire évidemment d'un personnage qui répare les vélos alors que lui-même a un gros problème, il n'a jamais su monter et faire du vélo.
Voilà. Merci beaucoup Olivier Delcroix pour ces coups de cœur partagés. Bonne matinée sur France Culture, les petits matins continuent.